Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc la proposition, c'est que je vous parle une grosse demi-heure. Ensuite, il y a une petite reprise théologique, si j'ai bien compris. Et ensuite, on pourra discuter entre nous. Ça va, vous m'entendez ? Ce que je vous propose, c'est d'aborder trois points. Le premier, un petit diagnostic sur la situation écologique et macroéconomique. Deuxième point, pourquoi la transition écologique est une réponse. Et troisième point, quelques considérations théologiques et spirituelles sous-jacentes. Premier point, le diagnostic. Donc là, je vais vous donner des mauvaises nouvelles pendant 10 minutes. Le diagnostic est très très sombre. Il ne vous aura pas échappé que nous ne faisons pas grand-chose pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La France est championne en Europe, puisque en 2017, elle a augmenté ses émissions de 3,2%. La zone euro, 1,8. L'Allemagne les a diminuées, moins 0,2. La Grande-Bretagne les a diminuées, moins 3,2. Donc la France est à la fois le pays hôte de la COP21 et de la Terre des droits de l'homme, bien sûr, mais elle est aussi un des pays les plus pollueurs de la zone euro. Nous avons tous collectivement signé l'accord de Paris en 2015 qui stipule que la communauté internationale s'engage à tout faire pour que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de 2 degrés Celsius. Alors, autre mauvaise nouvelle, c'est très, très certainement trop tard. Nous allons très certainement dépasser plus de 2 degrés. Nous sommes engagés sur une trajectoire qui nous emmène quelque part entre 4 et 5 dans un scénario qui commence à devenir plutôt optimiste aujourd'hui. Réussir à rester en dessous des 2 degrés, même si nous interrompions demain matin toutes les émissions au niveau de la planète entière, ce serait probablement déjà trop tard. Donc la grande question qui nous est posée, c'est comment faire pour nous éloigner le moins possible des plus 2 degrés. Au passage, d'où viennent les plus 2 degrés? La communauté scientifique, les climatologues, quelqu'un que vous connaissez sûrement, un grand monsieur, Jean-Pascal Van Nicozel, en Belgique, ont choisi le seuil des plus 2 degrés au GIEC, non pas qu'il y ait quoi que ce soit d'intrinsèque au seuil des plus 2 degrés, mais c'est parce que le caractère non linéaire de l'impact du réchauffement climatique fait que jusqu'à plus 2 degrés, on a une vision assez claire et assez fiable des conséquences. Au-delà de plus 2 degrés, c'est tellement non linéaire, c'est tellement exponentiel que une petite erreur de mesure peut avoir des conséquences colossal dans l'appréciation de l'impact du réchauffement, et donc les scientifiques sont obligés avec humilité de dire au-delà de plus 2, on ne sait pas très bien, voire on ne sait pas du tout ce qui va se passer. D'où la recommandation des plus 2 degrés. Alors, il y a un certain nombre de signaux littéralement catastrophiques que l'on enregistre aujourd'hui. D'abord, vous savez qu'à cause du réchauffement, le vivant est en train de migrer de l'équateur vers les pôles. Chaque année, les conditions climatiques se déplacent, en gros, hein, de 6 km de l'équateur vers les pôles. Donc ça veut dire concrètement que l'année prochaine, il fera à Bruxelles, en gros, les conditions climatiques qui ont prévalu 6 km au sud de Bruxelles cette année. La première fois que vous entendez ça, vous vous dites 6 km, la belle affaire. Moi, ça me prend une heure, c'est pas bien compliqué. Sauf que vous voyez bien qu'un arbre ne peut pas se déplacer de 6 km par an. Et donc, ça veut dire que le couvert végétal de la planète est en train de souffrir considérablement du réchauffement. Donc, les mammifères se déplacent, les êtres humains. La Banque mondiale chiffre à au moins 2 milliards de réfugiés climatiques. 2 milliards d'humains, hein, les réfugiés climatiques, dans la deuxième moitié de ce siècle. Mais ce qui peut bouger de 6 km par an, ce sont les bactéries et les virus. C'est pas difficile. Et on assiste dès aujourd'hui à une remontée des maladies tropicales vers les zones médianes, les nôtres, les zones tempérées. Donc la malaria, par exemple, a refait apparition au sud de l'Italie et s'est réimplantée au sud de l'Italie, dont elle avait disparu il y a plus d'un siècle aujourd'hui. Donc il y a 3 femmes italiennes qui sont mortes l'an dernier du palu, une crise de paludisme, parce que le brave médecin italien qui les a auscultées, n'étant pas spécialisé dans les maladies tropicales, n'a pas identifié la crise de palu sous les symptômes extérieurs qu'elle présentait. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes familier de la malaria, on a souvent autre chose en plus de la crise de palu. Et donc on soigne autre chose plutôt que la crise de palu. Et la crise de palu vous tue pendant que vous avez soigné l'autre chose en question. Il pourrait y avoir encore bien plus grave que la malaria. Donc le pergélisol, vous voyez ce que c'est le sol qui est gelé toute l'année en Sibérie, en Alaska, est en train de fondre. Et avec lui, des tas de maladies que l'on croyait disparues pour toujours sont en train de ressurgir parce que les bactéries ont été gelées, mais elles ne sont pas mortes. Alors, donc l'anthrax a refait son apparition. Il y a déjà un enfant russe qui est mort de l'anthrax l'an dernier, en jouant avec le cadavre d'un renne qui avait été gelé il y a un siècle et qui était mort de l'anthrax. Hein ? Mais aussi, par exemple, la grippe de 1918, qui, on a tous lu ça dans nos livres d'histoire, a tué 100 millions de personnes en 1918. Est quelque part dans le pergélisol sibérien et pourrait ressurgir. Et puis d'autres maladies que probablement nous n'anticipons pas très bien. Donc vous voyez que ça dessine un avenir qui est extrêmement sombre. Il pourrait y avoir encore pire, et je vais m'arrêter là dans les horreurs. Jusqu'à il y a 3 ans, il y avait un consensus dans la communauté des climatologues sur le fait que l'autre pergélisol, le permafrost en anglais, évidemment pas celui qui est à l'air libre en Sibérie ou en Alaska, mais celui qui est sous l'eau, au fond de l'océan Arctique, qui est également de la terre gelée. En fait, ce pergélisol-là contient énormément de méthane, alors, notamment ce qu'on appelle les hydrates de méthane. On sait que s'il venait à fondre un jour, il libérerait tellement de méthane que là, vous savez que le méthane CH4 a un pouvoir réchauffant bien supérieur au CO2, au moins au début de sa vie dans l'atmosphère. On sait donc que si les hydrates de méthane venaient à fondre, ça libérait tellement de méthane que là, la planète s'envolerait non pas pour faire plus 4, plus 5, mais 6, 7, 8, 10 degrés. Et là, sans vouloir utiliser de mots grandiloquents, mais la survie de l'espèce humaine serait en jeu. Donc jusqu'à il y a 3 ans, le consensus c'était c'est physiquement possible, mais si ça devait arriver un jour, ça n'arriverait pas avant le 22e siècle, donc nous avons du temps pour prévenir la catastrophe et faire en sorte qu'elle n'advienne pas. L'an dernier, pour la première fois, il y a eu un article très documenté qui dit « Nous n'avons plus la certitude que ceci n'arrivera pas avant le 22e siècle. » Parce qu'on observe aujourd'hui un décalage dans la mesure des émissions de méthane à la surface du sol en Arctique et la quantité de méthane qu'on observe dans l'atmosphère. Il se peut que le décalage entre les deux, il y a plus de méthane dans l'atmosphère qu'à la surface du sol, provienne en fait d'émissions de méthane qui viennent de la mer. Et nous avons très peu de capteurs au-dessus de la mer, pour des raisons évidentes. Et donc, nous avons un déficit de mesure des émissions de méthane qui viennent de l'océan. Et une des explications possibles de ce décalage, de ce gap en anglais, c'est que l'océan serait déjà en train d'émettre du méthane. Si c'était vrai, mais heureusement, ça n'est encore qu'une hypothèse aujourd'hui, ça voudrait dire que les hydrates de méthane au fond de l'océan Arctique sont déjà en train de fondre. Mais je nous signale ça pour qu'on prenne tous conscience de la gravité catastrophique de ce dont il est question en ce moment. Alors, encore un dernier point qui est assez effrayant aussi, et puis je vais vraiment m'arrêter là. Ça, c'est Jean-Pascal Van Lippenzel qui me l'a appris, je ne savais pas. Il y a une expérience récente qui montre que lorsque vous avez une forte concentration de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en fait, le cerveau humain moyen perd une partie de ses facultés. Combien ? Alors, donc, ce que montre l'expérience, c'est que si vous avez une concentration de 1000 ppm, ppm c'est l'unité de la concentration, c'est des parties par million, aujourd'hui on est à 400 sur la planète, hein, et à 1000, le cerveau humain perd 20% de ses facultés. 1000 ppm, c'est la concentration vers laquelle nous devrions atteindre à la fin du siècle, si nous continuons sur la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui, de ce qu'on pourrait appeler le business as usual, qui, pour les gens qui connaissent, des experts et le RCP 8.5 du GIEC. Pour le dire autrement, la trajectoire du business as usual nous envoie vers une situation où nos enfants, pas les miens, mais les vôtres, seront tous gaga à la fin du siècle. Parce qu'avec moins de 20% de nos facultés cérébrales, je ne sais pas très bien ce qu'on fait. Peut-être on a encore les moyens de regarder Game of Thrones, mais à part ça... Voilà, vous voyez. Et donc, je signale ce point parce que mon expérience, quand je discute notamment, je peux vous raconter ça, c'est une anecdote, mais je crois que c'est assez révélateur. J'ai discuté en décembre dernier avec des financiers britanniques à la Royal Academy of Sciences à Londres. Et ces financiers, très cyniques, je dois le reconnaître, m'ont dit, vous savez, nous, on ne financera pas la transition écologique en Europe. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer nos enfants en Suède, parce que grâce au réchauffement, la Suède va devenir un pays très sympathique. et on laissera les Chinois faire le travail, mais nous, c'est hors de question. Alors, c'est une erreur majeure, pour l'état de raison, parce que l'Angleterre elle-même, alors ils croyaient aussi que l'Angleterre serait peu affectée par le réchauffement climatique. Donc, je suis allé vérifier auprès des amis climatologues, hein, l'Angleterre devrait avoir 3 millions d'Anglais sous l'eau avant la fin du siècle. Il y a déjà un village en Angleterre, vous avez peut-être suivi ça il y a 2-3 jours, j'ai pas retenu le nom, il y a un village britannique qui vient d'être sinistré et abandonné. Donc les autorités britanniques publiques ont fait savoir aux habitants qu'ils ne garantiraient plus leur sécurité et qu'il ferait mieux de déménager parce que le village sera sous l'eau d'ici quelques années. Les scénarios de montée du niveau de la mer aujourd'hui, c'est plus de mètres à la fin du siècle. Donc, plus de mètres, ça veut dire que Venise sera sous l'eau, une bonne partie du littoral français sera sous l'eau, New York sera sous l'eau également, ce qui va obliger nos amis américains à faire quelque chose. Voilà. Et donc, première erreur majeure, l'Angleterre ne serait pas très atteinte. En réalité, 3 millions d'Anglais sont sous l'eau. Et puis, deuxième erreur majeure, la Suède sera un Eldorado, c'est pas vrai du tout. Vous avez certainement vu, entendu parler des incendies catastrophiques qui ont atteint la forêt suédoise l'an dernier. Et la Suède ne sera pas protégée contre les bactéries, les virus, les anthrax, la malaria et tout ça. Voilà, donc y a, et puis, s'ils perdent 20% de leur capacité cérébrale, les enfants de ces... Les gosses du riche britannique qui seront là-bas n'auront pas un avenir très enviable non plus. Voilà. Donc, la situation est très très grave. C'est ça le résumé. Du point de vue macroéconomique, et après je vais passer aux solutions quand même, du point de vue macroéconomique, nous sommes dans une situation qui a complètement changé dans le monde depuis la grande crise financière de 2008-2009. Jusqu'alors, et ça faisait en gros une vingtaine d'années que nous étions installés dans ce circuit-là, en gros, je simplifie évidemment, hein, mais en gros, la grande usine du monde, c'était la Chine, qui produisait tous les gadgets que nous avons tous, donc, je parle de mon manteau là-bas, le téléphone que vous avez dans votre veste, pour pas cher, parce que les ouvriers chinois, comme vous le savez, étaient payés au lance-pierre, les excédents commerciaux chinois étaient réinvestis dans la sphère financière occidentale, notamment via l'achat de dettes publiques américaines. Et donc, au fond, nous étions gagnants une première fois, nous les Occidentaux, parce que nous consommions des produits, des gadgets, pour pas cher. Puis certains d'entre nous, une petite minorité, étaient gagnants une deuxième fois parce qu'ils récupéraient leur propre argent sous forme de bénéfices financiers. D'où l'explosion des inégalités en Occident, puisque certains d'entre nous ont gagné deux fois, en fait. Puisque la Chine réinvestissait son excédent commercial, 3 000 milliards de dollars en 2007, donc une fois et demie le PIB français, par exemple, dans la sphère financière occidentale, générant des bénéfices financiers colossaux dont une partie d'entre nous ont pu bénéficier. Ceci, tout ça est terminé depuis 2009 en gros. Pékin a compris que les marchés financiers occidentaux ne sont pas fiables. Pékin a perdu beaucoup d'argent à cause du krach financier. Depuis lors, nous n'avons quasiment rien fait pour réguler nos marchés financiers. L'Union bancaire européenne ne nous protège pas. Et donc Pékin a cessé de réinvestir ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale. Et puis deuxièmement, Pékin a réorienté sa production industrielle non plus vers les marchés occidentaux, mais vers son propre marché intérieur, domestique. D'où l'augmentation des salaires sur la côte est chinoise, dont vous avez sûrement entendu parler, autour de Shanghai, qui a permis l'émergence d'une classe moyenne chinoise qui aujourd'hui est capable d'absorber une partie de la production industrielle chinoise. Et la balance commerciale de la Chine aujourd'hui avec l'Occident est à peu près nulle. Donc, la Chine n'est plus la grande usine de l'Occident. Nous ne pourrons pas, dans les années qui viennent, continuer à nous approvisionner facilement en produits pas chers, puisque cette ère-là est terminée. Et la guerre commerciale que les États-Unis sont en train de lancer à la Chine n'est pas étrangère à ceci. Les États-Unis ont compris que, de toute façon, il faut changer la donne, puisque la donne actuelle ne permet plus à l'Occident de continuer de vivre comme il l'a fait. Alors la grande question à plusieurs milliers de milliards qui est posée au monde entier, c'est qui sera la prochaine grande usine du monde, s'il y en a une. Et évidemment, tous les regards sont tournés vers l'Afrique, parce que c'est le seul continent de la planète qui va avoir une forte poussée démographique dans les années qui viennent. Hein, la population africaine aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants, et selon les scénarios démographiques, on devrait avoir plus 1 milliard ou plus 1,5 milliard d'habitants en Afrique, d'ici 2050. Donc une Afrique à 2,8 milliards d'habitants, ça fait beaucoup de monde, et évidemment une grande hypothèse c'est et si c'était la prochaine usine du monde. L'hypothèse qui est confirmée par un élément et infirmée par deux autres, confirmé par les extraordinaires investissements chinois en Afrique. L'Europe investit très peu par comparaison avec la Chine, mais affirmé par deux autres. Le premier point, c'est que l'essentiel de ces investissements chinois n'est pas destiné à financer des infrastructures industrielles, mais plutôt à s'accaparer des terres et à récupérer la rente minière africaine, qui est colossale. Et donc ça, vous avez compris que la Chine s'est lancée dans une grande stratégie de captation des ressources minières dont elle a absolument besoin. Par exemple, elle n'a pas de cobalt du tout sur son territoire. 80% des ressources de cobalt du monde sont en République démocratique du Congo. Donc l'intérêt de la Chine pour la RDC n'est pas lié à une philanthropie pour la forêt du Congo, c'est qu'elle a besoin du cobalt congolais. Donc, est-ce que cet argent chinois, en fait, constitue les prémices d'un véritable plan Marshall de la Chine pour l'industrialisation de l'Afrique? C'est pas clair. Et puis, troisièmement, il y a quand même un certain nombre d'obstacles majeurs à l'industrialisation de l'Afrique, malheureusement. Le premier étant le réchauffement. L'Afrique subsaharienne va être heurtée de plein fouet par le réchauffement climatique. Bon, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique, hein, il a suffi de deux cyclones pour mettre le pays complètement à terre. Mais le réchauffement va impacter très très fortement l'Afrique subsaharienne. Et puis, deuxième grand défi, l'éducation de la jeunesse africaine. Vous avez peut-être repéré que la Banque mondiale, qui d'ordinaire est quand même très très optimiste, a tiré une sonnette d'alarme, brillante, l'an dernier, sur l'échec de la scolarisation primaire en Afrique subsaharienne. Bien que 80% des enfants d'une classe d'âge en Afrique aujourd'hui soient scolarisés, ils vont à l'école, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, c'est vrai, 80% de ceux qui vont à l'école ressortent de l'école sans avoir appris à lire, à compter et à écrire. Pour des raisons évidentes, c'est que les programmes de scolarisation à toute vitesse qui ont été lancés, notamment sous l'impulsion de la Banque mondiale, ont juste oublié que s'ils n'avaient pas d'instituteurs bien formés en face des élèves, ils n'apprennent rien. Voilà. Et donc, c'est une des conséquences de la, à mon avis, du manque de réflexion de fond qui est mis en œuvre par un certain nombre de bailleurs internationaux. Voilà, en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ait une nouvelle génération d'Afrique subsaharienne qui soit massivement éduquée, et ça pose une grande question qui est la suivante: sera-t-elle davantage éduquée? Et si elle ne l'est pas, comment pourrait-elle constituer des bataillons d'ouvriers capables de travailler dans les industries, dans les usines? Voilà. Alors, face à tout ceci, à mon avis, ça ouvre une perspective qui est: l'Europe pourrait aussi penser à se réindustrialiser. L'Europe du Sud s'est massivement désindustrialisée. Vous savez que l'industrie aujourd'hui, c'est 12% du PIB en France, en Angleterre, aux États-Unis également. Est-ce que ceci est une fatalité? C'est pas clair. Est-ce qu'il y a une fenêtre aujourd'hui pour une réindustrialisation verte en Europe? Moi, j'en suis convaincu. Et quand vous parlez avec des capitaines d'industrie, alors en Belgique, c'est pas très bien, mais en France et en Italie, c'est très clair, ils n'attendent que ça. Ça me conduit à mon deuxième point, très rapidement, qui est la transition écologique. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à avancer au pas de charge vers des sociétés qui n'émettent plus de carbone, ou qui sont telles que le peu de carbone résiduel qu'elles émettent encore sera capturé et stocké par des techniques probablement naturelles, non pas industrielles, de capture et stockage de carbone. Tous les scénarios du GIEC concordent, il faut absolument que la planète ait atteint la neutralité carbone avant 2060, si possible en 2050, pour qu'on ait la moindre chance de rester pas trop loin des plus de 2 degrés à la fin du siècle. Alors, dans un contexte où la France, par exemple, augmente ses émissions, c'est mal parti. Si on veut donc atteindre la neutralité carbone avant 2060, il faut les diminuer de 5% au moins chaque année, ce que ne fait aucun pays de la zone euro. Il existe un certain nombre de scénarios de transition énergétique pour la France. Moi, je ne connais que ceux de la France, je ne connais pas ceux de la Belgique, mais je suis certain qu'il en existe également pour la Belgique. Ils ont été analysés et dépouillés à l'occasion d'un comité des experts pour le débat national en France en 2013-2014, qui avait été lancé par la ministre de l'époque, Delphine Batteau, comité dont j'ai fait partie. Donc, une dizaine de scénarios ont été exhibés, qui diffèrent en fait en fonction du bouquet énergétique en 2035. Et évidemment, dans le cas de la France, vous en doutez, en fonction notamment de la place du nucléaire dans la production électrique en 2035. Mais avant de nous déchirer sur la place du nucléaire, qui est un sport national que les Français adorent, un peu comme l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, ils en ont parlé pendant 2 heures, puis ça n'a abouti à rien. Il faut, à mon avis, regarder ce qui est commun à tous les scénarios. Donc, quelle que soit au fond la décision que nous prendrons sur la place du nucléaire, de toutes les manières, il faudra en passer par ces trois étapes qui sont communes à tous les scénarios, qui sont rénovation thermique de tous les bâtiments. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance en Europe de l'Ouest d'avoir un patrimoine immobilier extrêmement riche, en dépit des destructions de la Seconde Guerre mondiale, de sorte que si nous nous contentons de durcir les conditions du neuf, il nous faudra trois siècles pour que la totalité du bâti européen soit en gros énergie positive. Donc il faut rénover thermiquement tous les bâtiments, y compris ce beau collège. C'est extraordinairement créateur d'emplois. C'est des emplois non délocalisables, parce que ce n'est pas les ouvriers chinois qui vont faire la rénovation thermique du collège Saint-Michel. Et ça redonne un visage complètement nouveau à toutes nos villes. Ça oblige à un réaménagement du territoire. C'est un vrai projet de société. C'est tellement créateur d'emplois que lorsqu'on a, avec l'équipe des ingénieurs avec qui j'ai travaillé, présenté ce projet-là au précédent gouvernement français, pas l'actuel, le précédent, les entreprises des bâtiments avec lesquelles nous travaillions à l'époque nous ont dit « Surtout n'allez pas trop vite parce qu'on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés en rénovation thermique des bâtiments en France pour le faire à l'échelle nationale. » Donc la recommandation c'était « Vous le faites ad experimentum sur deux régions. » Le gouvernement lance le signal aux entreprises du BTP qu'ils veulent faire ensuite à l'échelle nationale, 4 ans plus tard. Ça laisse le temps aux entreprises du BTP de lancer des filières d'apprentissage. Puis 4 ans après, vous avez l'armée espagnole d'ouvriers qualifiés qui pourra le faire au niveau national, avec le retour d'expérience des deux premières régions. Oui. Rien de tout ça n'a eu lieu. Le gouvernement précédent nous a accueillis très très chaleureusement. Vous avez, c'est une très bonne idée, on va le faire, il n'a rien fait. Le gouvernement actuel n'en fait pas davantage sur cette question. Alors que c'est la première étape, dans tous les scénarios, c'est la première étape indispensable. La deuxième étape, c'est la mobilité verte. Donc c'est, et à chaque fois, ça passe par le déploiement du train, le ferroutage, la réduction évidemment de toutes les voitures à moteur thermique, la suppression de toutes les voitures à moteur thermique, et le remplacement des voitures dont nous n'arriverions pas à nous débarrasser par des voitures électriques, des voitures à hydrogène. Ça suppose là aussi un réaménagement complet du territoire. Donc les urbanistes sont assez clairs là-dessus, ça veut dire des petites villes, très denses, innervées par du transport public, quasiment plus de voitures dans les villes, autour de chaque ville de l'agroécologie avec des circuits courts, dont les produits agricoles sont acheminés en centre-ville par du train. Parce que les gros camions qui acheminent aujourd'hui de la nourriture dans les supermarchés fonctionnent tous à l'essence, et on ne saura pas faire des gros camions électriques efficaces d'ici 15 ans. Donc ça veut dire que c'est la fin notamment des grands supermarchés qui sont tous situés à 4 km du centre-ville et qui ne sont pas accessibles sans voiture. D'ailleurs, la grande distribution l'a très bien compris, qui est très très embêtée par cette affaire-là. Pour vous donner une petite... parce que ça, je sens que certains d'entre vous doivent se dire le brave Père Giraud est fatigué. Donc il y a 3 ans et demi, j'ai emmené à l'Élysée, en France, des représentants d'un fonds spéculatif autrichien qui voulait investir 5 milliards d'euros dans les centres-villes des villes moyennes françaises pour acheter les centres commerciaux à proximité des gares. Parce qu'ils avaient compris que dans 20 ans, lorsque nous aurons fait ce que je suis en train de vous décrire, si on le fait, le roi de la planète, si je peux dire, ce sera celui qui sera le propriétaire du centre commercial près de la gare. Et c'est lui qui apportera à manger et chez qui toute la ville ira se fournir pour manger. Donc ils voulaient investir 5 milliards, vous avez compris tout ça, mais évidemment 5 milliards c'est beaucoup, vous ne faites pas une telle opération sans prévenir les autorités politiques, et ils ont été accueillis à l'Élysée comme un chien au milieu d'un jockey. Il y a 3 ans, l'Élysée n'avait absolument rien compris à cette affaire-là. Alors que je suis allé avec eux pour confirmer que les experts de la transition, pas moi, les experts de la transition, confirment complètement que c'est ça le seul scénario viable pour mettre en place une transition efficace. Donc, première étape, rénovation thermique des bâtiments. Deuxième étape, mobilité verte. Troisième étape, le verdissement des processus industriels et agricoles. Donc, ça veut dire mettre fin le plus rapidement possible à la PAC, qui est une catastrophe, la remplacer par de l'agroécologie partout. Là aussi, c'est extraordinairement créateur d'emplois. Et la jeune génération, telle que moi, en tout cas, je l'appréhende, est très, très désireuse de l'invention de nouveaux modes de vie à l'articulation entre le monde urbain et le monde rural. Elle n'a plus du tout envie, en tout cas une bonne partie d'entre elles, du rythme de vie stressé, suroccupé et malade de bonne partie des urbains que nous sommes. Voilà, c'est ça la transition écologique. Est-ce qu'on peut la financer, la réponse est oui. Je rentrerai dans le détail technique si vous voulez. Combien ça coûte? Ça dépend des pays, mais pour la France, c'est... Après, la dernière version des calculs qu'on a fait, c'est entre 70 et 80 milliards d'euros chaque année. Voilà, il faut le dire, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup trop cher, etc. Le PIB français, c'est 2300 milliards. Donc, est-ce que vraiment, on n'a pas les moyens de dégager 80 milliards? Bon, on pourrait discuter. Oui. Surtout que ce dont il s'agit, ce qui est en jeu, c'est pas... C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'anthrax, la malaria, 5 milliards de personnes atteintes de malaria, 2 milliards de réfugiés, etc. Troisièmement, quels sont les enjeux théologiques et spirituels sous-jacents? Il me semble que la tâche est tellement immense que ça nous oblige à revisiter même quelque chose qui tourne autour de, disons, la place très très grande que nous avons accordée à la propriété privée depuis, en gros, la Révolution française, depuis le XVIIIe siècle. Les déclarations des droits de l'homme font de la propriété privée un droit sacré et inviolable. L'encyclique Altissimus, Rerum Novarum, pardon, en 1891, a repris cette idée-là, en fait, qu'elle a empruntée à John Locke, disant vraiment, la propriété privée, c'est très important. Et aucun doute que c'est très important. Mais la grande tradition chrétienne, c'est pas du tout de valoriser la propriété privée. C'est de dire, à l'origine, les biens sont communs. C'est la destination universelle des biens. C'est la communauté des biens qui est première. Et la propriété privée, y compris chez saint Thomas, dans la Secunda Secundae, la Quaestio 66, pour ceux que ça intéresse, y compris chez saint Thomas, la propriété privée est un pis-aller lié, disons, à la finitude humaine, à notre métisse collective et puis au péché. Mais le droit naturel, c'est un droit des biens communs, des biens partagés. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui dans le monde un extraordinaire mouvement lié à ce qu'on appelle les commons en anglais, qui a été en partie rendu plus vivace par les travaux d'une économiste nord-américaine qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009, autour de ce qu'on appelle les communs. Et toutes ces expériences très concrètes au ras du sol de communautés qui décident de s'approprier une ressource collectivement, qui décident collectivement des règles d'attribution de la ressource, dont plus personne n'est propriétaire privé, parce que ces communautés-là ont compris que c'est l'appropriation privative du bien qui le détruit, mais une gestion communautaire, discutée, partagée. Alors évidemment, tout le monde pense à Acte 2, 44, ils mettaient tout en commun, dans l'Église primitive, selon saint Luc. Et je dis ça parce que ça signifie que nous, dans notre tradition chrétienne, nous avons une véritable mémoire spirituelle de cette expérience-là. C'est pas comme si nous n'avions pas une tradition religieuse où, depuis 16 siècles maintenant, les communautés monastiques mettent tout en commun. C'est une des caractéristiques de la tradition, des traditions religieuses occidentales. Alors que, par exemple, en Amérique latine, comme vous le savez, si j'accepte les populations indigènes qui pratiquent évidemment les communs depuis toujours, c'est beaucoup moins ancré, disons, dans la tradition, y compris chrétienne, des populations d'Amérique latine. Alors, si on essaye de comprendre dans quelle mesure notre tradition chrétienne revisitée autour de la koinonia chez saint Luc, dans les Actes des Apôtres, il mettait tout en commun. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait aussi relire, par exemple, le dernier repas du Seigneur. Ceci est mon corps. Le Christ distribue son corps et le met en commun auprès des apôtres et de ceux et celles qui sont avec lui le soir du dernier repas. Et il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il y a matière, je crois, à relire au fond l'institution eucharistique comme le geste par lequel le Christ dit, mon corps n'est plus à moi, c'est plus mon bien propre, privé, je le donne et je le mets en commun parmi vous. Alors si on relit toute cette tradition-là, il y a peut-être moyen pour nous de puiser dans les ressources spirituelles chrétiennes l'énergie, le courage, l'audace qu'il nous faut pour oser mettre en place des communs. Et pourquoi mettre en place des communs? Mais je crois que, en tout cas c'est l'expérience que nous avons à l'Agence française de développement, c'est probablement pour toute une série de ressources, matérielles comme immatérielles, le mode d'appropriation collective le plus efficace. Donc vous voyez, les communs, ça n'est ni la propriété privée, ni le communisme soviétique, ça c'est l'absorption de la sphère sociale dans la sphère publique de l'État. Les communs, c'est autre chose, c'est des communautés qui s'approprient une ressource. Exemple. Dans la banlieue de Kinshasa, l'AFD a soutenu des tas de projets où ce sont des communautés locales qui gèrent ensemble l'adduction d'eau potable, donc très, très clairement la fontaine, le puits, etc. Et ça marche beaucoup mieux que la gestion privée ou la gestion par l'État. À telle enseigne qu'en 2016, alors cette fois-ci, c'est pas autour de Kinshasa, c'est à La Paz, la capitale de la Bolivie, qui est à 4000 mètres d'altitude. La Paz, vous le savez, aujourd'hui est dans un désert, puisque tous les glaciers ont fondu. La Paz a connu, pendant l'été 2016, ce qu'on appelle le day zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Jour que Cape Town, par exemple, attend avec angoisse maintenant chaque année, qui nous arrivera peut-être un jour, si on ne fait rien, si on ne met pas en œuvre la transition écologique dont j'ai parlé. Donc La Paz a connu ça. Alors vous savez qu'on peut vivre un certain temps sans électricité, on ne pourra plus faire cette conférence, puisque sans micro, je ne peux rien faire. Par contre, on ne peut pas vivre sans eau, c'est vraiment pas possible. Et donc les urbains, les citadins du centre-ville de La Paz ont vécu des jours très 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 difficiles pendant l'été 2016. Pendant ce temps-là, les pauvres qui étaient dans la banlieue de La Paz, qui avaient organisé la gestion de l'eau comme commun, ont continué à vendre de l'eau. Et donc c'est l'exemple le plus extraordinaire que je connaisse de la supériorité majeure, massive, d'une gestion communautaire intelligente sur la gestion privative ou la gestion publique. C'est pas du tout la pente vers laquelle nous glissons en Europe. Vous savez qu'à Naples, en Italie, il y a eu des bagarres pas possibles en 2011-2012 contre la privatisation de l'eau. Donc les Napolitains sont descendus dans la rue pour défendre la municipalisation de l'eau. Contre qui ? Contre la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui voulait absolument privatiser l'eau à Naples. Donc les Italiens ont obtenu gain de cause. Un grand juriste italien, Stefano Rodotta, a proposé d'inscrire l'eau comme bien commun dans la Constitution italienne. Il n'a pas obtenu, mais ça a suscité un véritable élan, une prise de conscience du caractère absolument primordial de l'eau et du fait qu'on ne peut pas privatiser l'eau. Alors une fois que vous avez compris ça, vous dites, mais au fond, quels sont les biens qu'on pourrait élire, choisir comme des biens communs ? C'est sans limite, c'est une décision politique. Vous pouvez penser à la faune halieutique dans nos océans, les poissons. Vous savez que si nous continuons à pratiquer la pêche industrielle en eau profonde, et si les océans continuent de s'acidifier comme ils le font aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, il n'y aura plus de poissons comestibles dans les océans entre 2040 et 2050. Ils seront remplacés par des méduses. Question, comment est-ce qu'on prend soin des poissons dans nos océans ? Si on privatise la ressource, elle disparaît. Et heureusement, il n'y a pas d'État mondial pour transformer les poissons en biens publics, en biens gérés par la puissance publique. Donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver une institution internationale hybride, ni purement privée, ni purement publique, qui soit capable de gérer, d'assumer l'intendance des poissons comme commun. Est-ce qu'il existe des organisations internationales de cette nature ? Je vais m'arrêter là, parce que je suis trop long. La réponse est oui, j'en donne un exemple. Parce que souvent, les communs sont assimilés à des expériences très très locales. Donc je voudrais suggérer qu'en fait, ce n'est pas réservé au micro et au local. Cet exemple, c'est DNDI, qui est un acronyme pour Drugs for Neglected Disease Initiative, dont le siège est à Genève, en Suisse, qui existe depuis 15 ans maintenant, qui est un réseau qui est un réseau de production de médicaments pour des maladies négligées par le secteur pharmaceutique privé. DNDI allie à la fois des laboratoires pharmaceutiques issus du secteur privé, le plus classique, des ONG et des États. Mais DNDI n'est ni purement privé et non-profit, ni purement étatique, aucun État n'a la main dessus, et ni simplement non plus livré à des ONG, même si c'est les ONG qui font la distribution sur le terrain in fine. Qu'est-ce que réussit à faire DNDI ? Par exemple, DNDI réussit à commercialiser une thérapie contre l'hépatite C en Égypte. Les Égyptiens sont ravagés par l'hépatite C pour $400, alors qu'elle vaut plusieurs milliers d'euros en France. Alors évidemment, $400, ça reste $400, mais c'est beaucoup, beaucoup plus accessible à l'Égyptien moyen qu'une thérapie qui vaudrait 2 ou 3 000 euros en France. Voilà. Et DNDI, c'est un exemple, et il y en a sûrement d'autres, de l'inventivité institutionnelle dont, à mon avis, nous avons besoin de faire preuve pour pouvoir réorganiser notre rapport au monde de manière à pouvoir relever le défi écologique. Voilà, je m'arrête là. Merci.